La première, podcast.
La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Donc l'idée, c'est vraiment d'aller placer des logements modulaires dans des espaces vides et de mettre ces logements à disposition de personnes sans abri pour avoir un logement de transit en attendant de trouver un logement qui est un vrai logement, parce que l'idée, évidemment, n'est pas de loger les gens à long terme dans ce type de logement.
Ici, rue de la Révolution, au numéro 7.
Losé Stéphanie.
En venant ici, je suis sorti du métro Madou et en traversant le couloir, j'ai vu des hommes couchés sur des matelas qui dormaient.
On a un centre d'accueil de jour qui propose un restaurant social avec consigne à bagages, service de lessive, de douche.
Vous savez ça ?
Oui, oui, oui. Ils sont en général suivis par des ASBL de rue, comme Diogène, infirmier de rue, le SMES. Ce sont des gens qui, par choix ou par refus, évite le SAMU social et n'ont pas d'autre solution que de dormir dans des stations de métro ou sous des porches ou dans une tente.
On a 3 maisons d'hébergement qui peuvent héberger en moyenne 25 personnes par maison et qui donc sont hébergées en fonction de la situation de chaque personne entre 1 mois et 6 mois ou 1 an. Et donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans tout ce qui est démarches administratives pour pouvoir retrouver des conditions de vie dignes et surtout un niveau d'autonomie.
Et à une fois, j'entends. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse, donc.
Vous allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
C'était au Fab Lab. Voilà, le Fab Lab, c'est un lieu de fabrication numérique qui a été mis en place il y a 5 ans avec David Erkan. On avait déjà commencé à travailler avec Denis sur des projets ensemble dans le cours de structure. Le Fab Lab, c'est un élément complémentaire qui travaille sur le digital.
Home for less.
Architecture construite, c'est l'opposé, on va dire ça comme ça, en termes de production, puisque là, on fabrique les choses à la main, en autoconstruction. C'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Denis.
Home for less. Avec, à la faculté d'architecture La Cambre Victor Horta, Denis Delpire, Victor Lévy.
Alors Denis, c'est mon pote déjà. On travaille ensemble depuis presque 10 ans. Il est ingénieur architecte en fait.
Apolline Vranken et Pablo Loas.
Ce qui m'a séduit chez lui, c'est son côté autoconstructeur. Donc il a construit, entre autres, sa maison lui-même pendant 52 semaines. Denis, tu m'arrêteras si je me trompe. En partant un peu comme un chevalier fou en disant, ben, je vais la faire, quoi. Bon, allez, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Et ça lui a fait réfléchir, je pense, là-dessus. Et il en a tiré sa pratique professionnelle. Et l'enseignement qu'on a mis en place dans Archiconstruite est très fortement inspiré de ça.
Et à l'ILO SBL, Stéphanie Lozet et Chloé Thaume.
ILO, c'est une SBL qui lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles et en Wallonie. On a une maison d'hébergement aussi à Jumet, près de Charleroi.
C'est quelqu'un que j'aime bien aussi dans son approche sur la décroissance, en fait. C'est la première personne que j'ai entendue parler de décroissance. Je suis resté chez lui pendant 3 jours pour un petit peu m'imprégner de ça. Et il y a un des bouquins qui m'a frappé là-dessus. Et je me suis dit, c'est marrant, comment, au fond, il serait possible d'arriver à vivre en autonomie. C'était un peu son credo il y a quelques années. Et je pense qu'une partie de ses décisions, à la fois professionnelles et d'enseignement, sont liées à ça.
Home for Less, par Thierry Genico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles. Cellule architecture.
Denis Delpire.
52 semaines, ça fait 1 an.
Oui, c'est ça, exactement. Victor aime bien les chiffres. Moi, j'ai rencontré Victor dans un atelier d'architecture ici, où on était tous les deux assistants. Et j'étais frappé par la manière qu'il avait de traiter des problèmes quand il y avait une question qui se posait. Une grosse question, genre comment on va attaquer ce programme que l'on a en commun. Et il déposait la question sur la table, il demandait aux étudiants de trouver des solutions. Ça m'a assez épaté parce que c'était vraiment une page blanche. Et donc c'est les étudiants qui construisaient le processus pour pouvoir trouver la réponse à la grosse question qui était posée de comment on va construire, faire un projet pour ce garage de voiture ou autre. Et puis quand j'avais un cours de structure, j'ai toujours un cours de structure, et c'était la troisième année que les étudiants ont un cours de structure, et là je me suis dit, bon, après quelques années, on va leur proposer de construire vraiment une structure, au lieu de leur donner encore des notions théoriques, alors qu'ils intègrent dans la tête, ils répondent bien à l'examen, mais après si on leur pose une question hors du contexte, dans un bâtiment ou dans un projet, ils ne sont plus là. Donc on s'est dit, on va leur faire construire quelque chose. Ils vont inventer un projet, ils vont le construire. Et puis j'ai demandé à Victor qu'il nous rejoigne dans ce cours. Donc il est venu nous donner un coup de main, deux ingénieurs que l'on est à gérer ce cours pour la pédagogie et pour le design aussi, pour son approche de design qui m'intéresse aussi. Et là on s'est rendu compte qu'on pouvait construire un projet, on pouvait gérer avec 40 étudiants un choix de projet sur une dizaine de projets, faire valider par l'ensemble de la communauté le projet qui était le plus intéressant pour la communauté, parce qu'on a construit un abri pour fumeurs dans la cour. Et puis après, faire travailler tous les étudiants sur ce projet. On a découvert quelque chose qui, après, était les prémices de l'atelier architecture construite.
Stéphanie Lezet.
Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est entretien social au centre de jour. Et donc, par là, je les remets en ordre de manière administrative. Et ma seconde casquette, c'est facilitateur logement. Et donc là, c'est la remise en logement qui est le fondement de mon travail.
Victor Lévy.
Denis dit que j'aime bien les chiffres, c'est vrai, j'aime bien quantifier en fait. Je pense que c'est parti d'une réflexion qui était, on a une série d'étudiants qui vont travailler sur de l'apprentissage, si on quantifiait le temps. Et donc on a quantifié le temps et c'était 1000 heures, 1000 heures de travail ou d'enseignement, etc. Et plutôt que de dire on met 1000 heures d'enseignement avec un cours ex cathedra, l'idée c'était de dire, au fond, si on travaillait pendant 1000 heures. Et donc on a demandé 1000 euros. 1000 heures, 1000 euros. Et ça aboutit à une structure qui, pour moi, au-delà de l'abri du fumeur, c'était une structure tridimensionnelle qui était mise en place avec des tuyaux électriques qui étaient fixés avec des colsons, etc. Mais on a tout travaillé jusqu'au détail d'architecture avec les étudiants en équipe. Donc il y avait des étudiants qui étaient devenus les architectes en fait du projet. Et il y avait les entrepreneurs qui étaient les gens qui suivaient. Ça a amené à des rapports et des relations humaines vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a croisé ici un étudiant qui est issu de ça. Et on croise assez souvent, en fait, des étudiants qui sont passés par l'atelier et qui prennent une place, en fait.
Stéphanie Lozet, vous dites le candidat.
Ou la candidate. Je remarque une augmentation des femmes, des mères isolées. Donc, actuellement, en coaching, on a 3 femmes, 2 hommes, et au total, 11 enfants.
Le rapport enseignant-enseigné, c'est un rapport qui est assez daté, je pense. Il est beaucoup plus intéressant pour l'étudiant d'arriver à trouver sa propre force et qu'on soit là pour l'accompagner, en fait, dans cette force-là. Et au-delà de ça, il n'y a pas que l'étudiant, il y a toute la synergie d'équipe. Et ça, on a construit en une dizaine d'années quelque chose qui est ce que Denis professe maintenant, ou en tout cas enseigne, pour autant que ce soit de l'enseignement. L'équipe, en fait, s'autogère. On est dans une forme de démocratie participative, dans un système où j'ai même plus envie de dire l'enseignant, mais l'accompagnateur, je sais pas, j'ai pas de mots, ni d'accompagnateur, ni de médiateur, ni d'enseignant, ni... Je trouve qu'il y a quelque chose de tout ça, où en fait l'endroit où on se trouve est en marge et en même temps en accompagnement.
des chefs d'entreprise qui ont fait faillite, vous avez des gens qui se retrouvent à la rue suite à des divorces qui se sont mal passés. Une grosse partie des gens est surendettée et n'a aucun intérêt à retrouver un logement. Ils vivent mieux à la rue que s'ils étaient en logement avec des ponctions sur leur pension, leur revenu, leur... Donc cela ne... En fait, par choix, préfèrent rester à la rue. Mais vous avez aussi une grosse propension de jeunes qui souhaitent, via des problèmes familiaux, des parcours institutionnels, qui à 18 ans s'achèvent, se retrouvent à la rue. Et puis vous avez une population de migrants économiques qui cherchent du travail. Vous avez des pensionnés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ni même à se payer un logement. C'est assez multiple.
En fait, ce qui se passe, c'est que c'est à la fois l'énergie des étudiants qui ressort, mais aussi leurs compétences propres. On avait fait un jour une présentation, je pense que c'était à Saint-Étienne, où on voulait présenter l'atelier, et la meilleure image métaphorique qu'on avait, c'était l'iceberg. Où on a expliqué que nous, on était capable de travailler sur le tiers au-dessus, ou sur le, je ne sais plus combien, c'est un tiers, un iceberg ?
Un cinquième,
bon, ouais. Et que tout le reste, en fait, était déjà acquis. Et que ce qu'il fallait faire, c'était faire remonter, en fait, ce qui était déjà acquis, pour qu'il puisse être utilisé par ce que nous, on pouvait apprendre. Et voilà, c'est un peu, je pense que c'est... J'aurais envie de résumer notre philosophie à ça. On commence très souvent les ateliers par, bon, forcément, apprendre à connaître les étudiants, mais leur demander qu'ils partagent avec les autres leurs compétences, de manière à ce que l'équipe, les 40 étudiants, disons, puisse tout de suite savoir quelles sont les ressources qu'ils vont utiliser, quelle personne va pouvoir lui apprendre, je ne sais pas, un peu de menuiserie, de l'électronique, du dessin, voilà, de la photographie. À partir de ça, ça devient une forme d'intelligence particulière, qui est un esprit à plein de têtes différentes.
Alors, les jeunes sont en augmentation, les femmes sont en augmentation aussi. Les migrants, c'est fluctuant, vraiment fluctuant. Et le surendettement, c'est assez stable.
Denis Delpire.
Ce qui fait le fondement, c'est qu'on propose aux étudiants de construire ce qu'ils vont dessiner. C'est là qu'on se situe, en se disant 1000 euros ou 1000 euros, comme ils sont disponibles pour travailler sur un projet et qu'on va le construire, autant que ce projet serve à quelqu'un. Donc depuis le début, comme cet abri pour fumeurs, depuis le début, les projets sont utiles à la société, à quelqu'un qui en a besoin, à une dame qui arrive à la pension et qui veut vivre dans une tiny house, dans une école pour faire un auvent. Un jeu pour qui doit se promener dans la ville, à Bruxelles. Et ce qui fait que l'étudiant est très motivé parce qu'il sait que ça va être utilisé par quelqu'un. Et en plus, il a le retour direct de cette personne quand cette personne est disponible. Je pense à cette dame qui voulait vivre dans une tiny house. Donc l'étudiant a un vrai client devant lui qui a des vraies demandes, et si on ne comprend pas sa demande, il va devoir l'exprimer un peu plus clairement, et en tout cas, ce n'est pas un projet qui se bâtit juste sur des idées que l'étudiant a dans la tête. Il va être confronté au réel, il va être confronté au budget aussi, il va être confronté à comment on organise une équipe pour arriver au résultat dans un délai qui est assez court. Où est-ce qu'on trouve la matière pour construire, et comment on l'assemble cette matière ? Si on doit utiliser de l'acier, ben on va devoir apprendre à souder. Est-ce qu'on a le temps d'apprendre à souder ? Quelqu'un peut-il nous apprendre à souder ? C'est un réseau, en fait, d'éléments foisonnants qui font que le projet devient ce qu'il est à la fin.
Ce qui est important, c'est que, après cette remise en logement, qui est extrêmement anxiogène, voire destructrice psychologiquement pour certaines personnes, il y a un relais fait avec des associations de guidance à domicile, qui, elles, vont d'abord être un point d'accroche pour les personnes, diminuer l'anxiété que se retrouver seul entre quatre murs, avec de nouveau des règles, des factures à payer, un loyer à payer, et cette disparition de sensation totale de liberté que vous avez en rue, puisque vous n'êtes pas entre quatre murs.
De confronter le projet à toutes ces contingences, à la réalité, pour le faire évoluer, ce projet, et qu'il soit intéressant aussi, plus intéressant à la limite, que juste s'il se nourrit du monde intérieur de l'étudiant, et que le monde extérieur nourrisse son monde. et que lui se situe par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il fera demain? Tout d'un coup, il y a des étudiants qui se disent ben, « Je me rends compte que c'est la relation avec les gens qui est le plus important, avec, avec les gens qui habitent autour du projet et qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai envie de leur expliquer, j'ai envie de faire des liens. » Ou d'autres étudiants qui se disent ouais, « Ce qui est super intéressant, c'est le détail technique et qui va faire, quand ils l'auront expérimenté une fois, qui va faire qu'ils vont dessiner différemment après. »
Stéphanie Lezay.
Donc, le service de guidance à domicile va aider à plusieurs niveaux, lutter contre cette solitude, permettre que la personne se réhabitue à gérer des papiers, à gérer tout ce qui est inhérent à l'occupation d'un logement.
Quelque chose sur lequel on a dû, quelque part, se mettre au point entre Denis et moi. Denis, il a une formation d'ingénieur architecte. Parfois, il a sa casquette ingénieur. Il a son tableur Excel qui sort tout de suite. Et presque un réflexe de trouver le chemin, d'avoir le chemin devant lui. Ça fait partie de cette formation-là.
Victor Lévy.
On a beaucoup travaillé là-dessus, parfois même on s'est retrouvé à l'atelier, à se dire, ben, on va laisser l'atelier. Pendant une demi-journée, il faut qu'ils prennent leur marque, il faut qu'ils décident, ou bien dans certains cas où on était incapable de prendre une décision, nous, en tant qu'enseignants, on leur a demandé de prendre la décision. On leur a dit, écoutez, là, vraiment, on ne sait plus. Comment est-ce qu'on va faire le jury? On a besoin de vous. Mais on ne va pas vous influencer là-dessus, on sort, et vous avez une heure pour trouver une solution, vous nous la proposez, ou vous la donnez simplement.
Home for Less, avec, à la faculté d'architecture La Cambre Victor Horta, Denis Delpire, Victor Lévy, Apolline Vranken.
Aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est une ancienne étudiante de l'atelier qui avait travaillé sur une tiny house, voilà, qui a été engagée à Lilo pour continuer le projet de Home for Less.
Tiny house. Alors, les tiny house, c'est un modèle d'habitat léger, mobile et minimal, en fait. En général, on va être sur les dimensions d'une remorque de voiture. Donc, il y a aussi toute la réflexion sur le poids des matériaux, l'isolation, etc. Et donc, c'était à la fois mener cette réflexion sur la question de l'habitat minimal, mais aussi sur les nouvelles formes d'habiter innovantes qui sont surtout apparues maintenant aux États-Unis et au Canada, mais qui commencent vraiment à émerger. On a par exemple le collectif Aller qui se mobilise pour revendiquer leur droit à l'habitat léger, parce que pour l'instant, la législation belge pose un cadre très très précis et très... très protecteur et donc un peu réducteur pour les personnes qui font des choix alternatifs. On peut parler par exemple aussi des yourtes, enfin voilà, il y a plein de modèles possibles.
On cherchait un projet qui aille du sens. Et on avait déjà fait un projet précédemment qui concernait la problématique de quand on a des tours de logement. Il y a beaucoup de tours de logement qui sont insalubres et les gens ne veulent pas quitter leur logement parce qu'ils ne vont pas le retrouver, ils sont quasi sûrs de ne pas le retrouver. Ils ont déjà eu tellement de difficultés à l'obtenir. Donc ils ne veulent pas le quitter, ils préfèrent rester dans un logement insalubre.
J'ai été l'étudiante de Victor Lévy et de Denis Delpire, qui étaient les enseignants en charge de l'atelier architecture construite. Et à l'époque, on avait un projet de tiny house. Et c'était un atelier que j'adorais parce que on faisait de la construction, on avait des projets très concrets.
L'idée, c'était comment faire pour que ces gens soient relogés à côté de la tour de logement et qu'on puisse pendant un an rénover le bâtiment. Donc on a eu un projet sur ce type-là, mais qui était déjà une idée de Victor. C'est toi qui avais imaginé cela.
Alors à Lilo, je suis chargée du projet Home for Less, donc je coordonne les différents partenaires du projet. Les deux premières années académiques, donc c'est un projet sur 3 années académiques pour la conception et la construction des modules, mais après évidemment on espère que ça va durer par la suite. Et donc, comme chargée de projet, je faisais le lien à la fois entre la faculté d'architecture et l'atelier architecture construite les 2 premières années, l'armée du salut chez qui on avait nos ateliers pendant 2 ans, le collectif Baya qui assurait une partie de l'encadrement pédagogique pour les questions de construction, etc., pendant l'atelier, et l'ASBL Communa qui s'occupe en fait dans la région bruxelloise de réactiver des lieux abandonnés avec des occupations temporaires, et Home for Less en fait maintenant partie.
Victor Lévy.
J'ai presque envie de dire que j'ai pas d'idée, moi, en fait. J'ai pas d'idée de base. J'ai plutôt une intuition. Et cette intuition, dans ce cas-là, c'était de regarder ce qui se passait au niveau du logement social à Bruxelles. Je sentais bien qu'il y avait un problème, je me doutais qu'il y avait un problème de quantité de logements, de manière de générer ça. J'avais quelqu'un que je connaissais qui était conseiller de Christos Zoukeridis. Je l'ai appelé, on a eu une réunion avec Christos, on a travaillé ensemble avec Denis pour regarder aussi où était la faille quelque part, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans ce système-là. Et après une réunion avec les étudiants et les gens du cabinet, on s'est rendu compte qu'il manquait 40 000 logements à Bruxelles, en fait. Et pour rénover des logements sociaux, il n'y a pas d'autre solution que de travailler sous la forme d'opérations tiroirs. Donc quand les gens doivent sortir pour une rénovation, ben, il faut avoir d'autres logements pour le faire. Donc petit à petit, la situation se dégrade. Et c'est là où on a proposé ces solutions-là. L'idée était de pouvoir se mettre dans différents terrains, à la fois en intérieur d'îlots, à la fois en extérieur, à la fois à côté du chantier, etc. Il y a eu, je ne sais plus combien, une quinzaine de projets qui ont été mis en place. Des budgets ont été votés par le cabinet Goulkeridis. Et on était à la fin de la législature, donc le projet a malheureusement capoté pour ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir ce qui se passe au niveau de l'influence. Donc, le projet ne s'est pas fait, mais on a vu des programmes qui ont commencé à sortir pour mettre en place du logement temporaire slash définitif pour ça. Donc, par exemple, une des tours de logement qui va être rénovée, qui est la tour Brinfo, les architectes ont rehaussé 5 niveaux d'habitation dans un projet qui est assez similaire à un projet que des étudiants ont réalisé. Est-ce qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils l'ont pas vu, je n'en sais rien, mais en tout cas, le principe était le suivant, c'est qu'on densifie en fait la tour de logement. Les gens peuvent monter pendant que le reste se rénove.
On a organisé par exemple une table ronde avec les étudiants l'année dernière, en début d'année, et des personnes qui sortaient de la rue, qui sont devenues des experts du vécu. Donc ils aident les institutions publiques à rédiger des lois et à modifier aujourd'hui le cadre pour justement mieux les encadrer, mieux les épauler. Et donc on voulait aussi qu'il y ait cette rencontre entre les étudiants et ces personnes-là.
On a aussi travaillé sur un autre projet qui était un projet plus lié à la fabrication digitale qui s'appelle les Wikihouse. Les Wikihouse, ce sont des logements que l'on peut fabriquer en partant d'un dessin informatique et qui sont fabriqués dans des laboratoires numériques comme les Fab Labs. Et il y avait deux blocages en fait. Un blocage, c'était le problème de la réglementation. La réglementation en région bruxelloise, le RRU, est absolument impossible pour fabriquer des projets de ce type-là. On a besoin de beaucoup trop de place. Les normes en termes d'isolation sont complexes. Il est difficile de faire de la recherche. Donc je suis remonté au cabinet, à l'époque je pense que c'était Emir Kir, et on a proposé une modification des arrêtés royaux en région bruxelloise sur les permis de minime importance. Donc on a travaillé avec le cabinet et le cabinet a fait voter cette micro-loi qui permet en fait de faire des projets de construction qui sont liés à la recherche universitaire pour une période de 5 ans, qui doivent être démontrés après 5 ans. Mais ça a l'avantage en fait de pouvoir générer en fait une dynamique de recherche en région bruxelloise. Ça commence à se mettre en place. Il y a déjà quelques projets maintenant qui sont dans ce cadre-là et Home for Less est dans ce cadre-là.
Apolline Vranken.
Nous, on cherche des lieux disponibles pour une durée minimum de 2 ans. Dans le secteur du sans-abrisme, enfin en tout cas qui lutte contre le sans-abrisme, un logement transitoire, ça va être de beaucoup plus courte durée. Donc ça peut être quelques nuits ou quelques mois. Ici, nous, on voulait vraiment une formule intermédiaire. Donc on sait que ce n'est pas du logement pérenne comme quand on est propriétaire et que la propriété reste une arme contre la pauvreté. La plus grande arme, je crois, contre la pauvreté. Mais à côté de ça, on ne voulait pas non plus proposer quelque chose de trop transitoire, quoi. Donc on a une formule entre deux.
C'est l'idée qu'on a énormément de logements disponibles.
C'est maison pour moins, mais homeless, ça veut dire aussi sans-abri. Donc c'est une contrepétrie, un jeu de mots, qui partait donc d'un constat d'une vacance immobilière de plus en plus grande à Bruxelles, donc énormément d'espaces vides, d'immeubles vides. Et d'un autre côté, on a énormément d'attentes au niveau des logements sociaux. On a entre 8 et 10 ans d'attente pour obtenir un logement social. Donc 10 ans, c'est pour le temps moyen d'attente pour une famille, ce qui est évidemment pas faisable, hein. On a le temps d'être un peu mal en point dans la rue pendant 10 ans. Et donc Lilo, qui est une SBL qui lutte contre le sans-abrisme, a décidé d'initier ce projet en sachant qu'on avait une expertise au niveau du travail social, mais pas du tout au niveau de l'architecture, au niveau du logement. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée d'aller chercher cette expertise ailleurs. Et on a trouvé cette expertise à la Cambre, avec l'atelier Archiconstruite, avec donc Victor Lévy et Denis Delpire, qui sont les deux professeurs de cet atelier-là. On a aussi le collectif Baya, qui est un collectif d'architectes qui a fait le lien entre cette demande et cet objet social et puis l'aspect purement technique et architectural, parce que c'était deux domaines d'expertise qui finalement ne pouvaient peut-être pas forcément se comprendre. Et l'idée, c'était vraiment d'amener cette connaissance et de trouver un fonctionnement et un langage commun pour arriver à ce projet donc de logement modulaire.
C'est l'idée qu'on a énormément de logements disponibles.
Denis Delpire.
D'espaces disponibles, de bureaux inoccupés à Bruxelles. Et à la fois énormément de gens qui n'ont pas de toit. Donc on a commencé à réfléchir à la question avec l'ASBL Lilo, Ariane Dirix, en voyant ce qu'on pouvait faire. Eux ayant le contact directement avec les SDF et nous en ayant la capacité de proposer une réponse, je veux dire, architecturale pour loger les gens, on a pu trouver un espace qui est à l'Armée du Salut, où l'Armée du Salut nous a laissé un plateau entier où on pouvait faire nos tests.
Et cette habitation, comment se présente-t-elle? Que contient-elle? Que rassemble-t-elle pour la vie et non plus la survie?
Alors, au même titre que ce que vous pouvez retrouver dans votre appartement, qu'est-ce qu'il faut pour la vie? Une chambre, une douche, un évier, de quoi faire un peu la cuisine. Voilà, c'est vraiment comme un studio, quoi. Et alors, à côté de ces studios, donc ces box in the box qu'on vient mettre dans les bâtiments, on aménage en fait les alentours des modules en créant des espaces communautaires, donc une cuisine communautaire, un salon communautaire, à la fois pour donner une certaine dynamique à ce type d'habitat, mais aussi pour répondre à différentes exigences de la part des pompiers. Donc vraiment, on est là dans une habitation à la fois qui respecte le cadre légal, mais qui respecte aussi le cadre social de tout un chacun.
La question communautaire est-elle importante?
Oui, je pense.
Apolline Branquen.
Alors, il existe d'autres types d'habitats assez similaires à la formule Home for Less, qui là n'implique pas une vie en communauté, mais elle implique des coûts qui peuvent doubler parfois le prix d'un module, puisqu'on va demander à ce que les matériaux des parois du module soient résistants au feu pour des questions de sécurité. Tout ça implique énormément de surcoûts qu'on a voulu éviter parce que voilà, on considérait aussi que c'était une des demandes de notre public d'avoir un loyer accessible et qui restait relativement bas. Donc la question de la communauté se pose et elle va aussi cibler d'une certaine manière le public qui va vivre prochainement dans ces modules. On sait que certaines personnes ne sont pas prêtes à vivre en communauté et d'autant plus quand elles sortent de la rue. Et inversement, parfois retrouver une forme de solidarité sous son propre toit, chez soi, c'est une force et ça donne de la résilience à certains usagers. Alors ça implique aussi un accompagnement. Donc Lilo va assurer un accompagnement à la fois personnel.
Denis Delpire.
On a commencé en février 2017 à juin, où on a donc rassemblé 50 étudiants qui étaient intéressés par la question, et on est parti de rien. Donc, comment construire à l'intérieur d'un espace qui est froid, qui est très accueillant, des cellules dans lesquelles on peut se retrouver chez soi. Et à moindre prix, à moindre coût, démontable, remontable ailleurs, après une période de 2-3 ans, par exemple.
À la suite de mes études, en fait, j'ai été engagée par l'ASBL Lilo, qui a fait une commande à la faculté d'architecture pour construire des habitations modulaires et temporaires à destination du public sans abri.
C'était le début de l'aventure.
Apolline Branquen.
Là, j'arrivais en tant qu'architecte, Et mon rôle de chargée de projet m'a permis un peu de faire ce lien entre l'ILO, mais aussi la faculté d'architecture.
Donc il y a eu plusieurs propositions d'étudiants.
Évidemment, une question qu'on s'est posée, notamment dans un groupe de travail qu'on mène avec Perspective Brussels et d'autres acteurs de l'occupation temporaire à Bruxelles. Donc on peut parler du squat 123, de Communa, mais aussi de Two Stands, si on veut l'équivalent flamand de Communa.
Des étudiants qui mettaient des cloisons.
Après, il y aura aussi un accompagnement collectif avec hypothétiquement la rédaction d'une charte de vie en communauté, tout ce qui permet de faciliter et de rendre la vie en groupe plus facile, plus belle, plus heureuse, voilà.
D'autres étudiants qui faisaient plutôt des cellules, des boîtes en fait, en bois, isolées, plus faciles à chauffer, mais plus petites.
Au même titre que Communa, ce sont des ASBL qui viennent activer des lieux abandonnés, inutilisés, et qui luttent à la fois contre la vacance immobilière, mais en proposant toute une série d'activités qui viennent créer un esprit de communauté, qui viennent créer un pôle culturel ou social au sein d'un quartier. Donc il y a l'idée vraiment de réactiver à la fois immobilièrement parlant, mais aussi socialement parlant, des lieux, des communes, des quartiers.
À la fin de l'année, on a choisi trois projets qui ont été construits par l'ensemble des étudiants.
Est-ce que c'est l'avenir qu'on veut pour tout un chacun? Est-ce que c'est l'avenir qu'on veut pour les personnes qui sortent de la rue? Parce qu'il y a aussi toute cette mouvance de dire, voilà, une tente, c'est mieux que rien. Et alors oui, on pourrait rester là-dedans, mais je crois que l'avantage d'avoir travaillé ici avec la faculté d'architecture, c'était de proposer une qualité spatiale et une qualité architecturale qui amène de la dignité au logement.
Qui se sont réorganisés autour de ces trois projets, sur les 13 projets qui ont vu le jour pendant ce quadrimestre.
Moi, c'est Chloé Thaume, porte-parole de l'ASBL ILO.
Oui, il y en a un qui m'a vraiment touché. C'est des étudiants qui ont fait un projet, je pense que ça s'appelle l'Entre ou l'Entre-deux, je ne sais plus, dans lequel ils ont fait une cellule minimum et à peu près la même surface dans lequel on avait un volume qui était appropriable par la personne sans-abri, qui lui permettait de se reconstruire.
Les étudiants qui participent à l'atelier Archiconstruite, ben, forcément, changent chaque année.
La personne pouvait amener des objets, pouvait commencer à revivre, en fait, dans cet endroit-là.
On refait une présentation de l'année écoulée en montrant ce qui a été fait l'année précédente avec leurs prédécesseurs, les étudiants de l'année précédente.
Le gros problème, c'était de montrer à des personnes qui n'ont pas de logement, de les impliquer dans le processus, à la fin de leur dire, mais non, de toute façon, c'est pas pour vous, c'est juste une expérimentation et une tentative, on n'est pas encore prêt à vous donner le logement.
On a à chaque fois proposé aussi l'intervention d'experts du vécu, donc des personnes qui ont vécu en rue, qui ont retrouvé un logement et qui peuvent témoigner dans une plus grande sérénité, une stabilité, mais des témoigner de ce qui était difficile en rue et ce dont ils avaient le plus besoin. Parce que souvent, on a constaté que les travailleurs sociaux sont très au fait de ce qui est important pour les personnes en rue, et ce n'est pas forcément le cas des étudiants qui, eux, vont penser tout à fait différemment à logement. Et donc, c'était essentiel, très intéressant, mais même essentiel, que ces gens se rencontrent pour pouvoir construire quelque chose qui était vraiment adapté au public qui est destiné à vivre dedans.
On n'était pas prêt cette première année-là pour faire le test, mais le test va arriver ici.
Les questions qui revenaient le plus souvent, c'était justement le besoin.
Victor Lévy.
Il y avait des projets un peu plus techniques qui, moi, me marquaient un peu moins, mais qui, à la fois, petit à petit, commencent à se polliniser, je veux dire ça, avec d'autres idées. Donc voilà.
Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de place ou alors il faut absolument une place pour le chien ?
Les étudiants étaient sensibles, on l'a vu dans les jurys aussi, étaient vraiment sensibles à ce qui s'était fait. Ils se sont mis entre la compassion, l'empathie, je ne sais pas s'ils ont vraiment vécu comme des gens de la rue, mais ils étaient en tout cas tout à fait en phase avec ça.
Il vous faut beaucoup de fenêtres ou au contraire, on a besoin d'avoir un espace un peu cosy pour se sentir en sécurité. Et en fait, après, évidemment, chaque expert du vécu, chaque personne qui venait témoigner avait aussi un avis très différent. Ils ne sont pas tous d'accord, et heureusement. Mais c'était vraiment très très concret. Les questions qui se posaient étaient pratico-pratiques. par rapport à l'espace de douche ou la kitchenette, qu'est-ce qui finalement vous a le plus manqué et qu'est-ce qui ferait que vous vous sentez bien dans ce logement? Parce que le but, c'est d'aussi créer quelque chose qui permette aux personnes de se sentir bien, autonomes et en sécurité pour pouvoir à terme réintégrer un logement. C'est la grande difficulté qu'on a en fait avec des personnes qui ont vécu en rue, c'est que parfois c'est aussi violent de retrouver un logement et de se retrouver entre quatre murs que d'avoir découvert la vie en rue.
L'idée c'était de les mettre aussi les uns à côté des autres, c'est qu'il y ait une vie communautaire. C'est que dans un grand espace libre, on ait entre 3 et 5 logements et qu'ils aient des espaces communs.
Denis Delpire.
Qu'ils ne soient pas dans un espace perdu, seuls.
Dans un premier temps, on a collaboré avec l'Armée du Salut qui avait des espaces disponibles dans un immeuble près du canal, dans le centre-ville de Bruxelles. Et donc, on a pu y installer et travailler avec les étudiants pour construire 4 premiers prototypes de modules.
Clos et Tom.
Et donc, qui étaient très différents, c'était des propositions très différentes, qui variaient entre 18 mètres carrés et 25 mètres carrés, mais qui répondaient à chaque fois aux demandes du public destiné à y vivre. Avec à chaque fois donc des espaces de logement, plus un espace commun, espace de vie, salon, salle à manger.
Cet espace-là permettait en fait pour eux, quelque part, se reposer, se remettre dans un lieu qui leur appartiendra pour une période donnée, et après commencer à mettre en place ce qu'il faudrait pour remonter en selle.
Redonner un espace et une autonomie à la personne, mais en gardant cet aspect communautaire qui rassure aussi beaucoup les gens qui vivent en rue et qui souvent vivent en communauté.
Quand vous avez dit que le sans-abri n'a pas toujours été sans-abri, effectivement, il y a dû y avoir un accident de vie ou un accident personnel ou une maladie donnée qui a fait qu'il n'a plus été capable de réagir et qu'il se retrouve un peu en subissant la situation. Il est assez rare quand même de retrouver des sans-abri qui sont là par choix.
On a pendant des mois, au fil de l'année académique, vu les étudiants monter des panneaux, monter, démonter.
Remettre en place une nouvelle vie, puisque ce ne sera jamais celle d'avant, mais ce sera une nouvelle vie qu'on va reconstruire, quoi.
On leur propose un espace où ils peuvent retrouver une certaine sécurité, justement, un endroit où socialement ils sont en sécurité, on ne va pas leur voler leurs affaires. La sécurité n'est pas total dans les espaces qui sont dédiés aux sans-abri pour la nuit ou pour pouvoir se laver, etc., avoir les communautés minimum.
Des espaces communautaires.
C'est minimum, c'est petit, mais c'est leur espace à eux, où ils peuvent fermer à clé, leur laisser leurs affaires, savoir qu'ils vont les retrouver quand ils vont revenir.
Où les étudiants se sont un peu amusés avec le matériel de récupération et entre autres, ils ont créé des espaces de rangement, une bibliothèque, mais aussi des balançoires. Ils ont dit que ça pouvait être sympa au milieu de l'espace communautaire. Et effectivement, à chaque fois qu'on y va, on se mettait sur les balançoires, ça invite à la discussion et au partage.
Pablo Loas.
Moi, je crois qu'effectivement, ça renvoie à une des missions que nous, on conçoit pour l'école et pour l'université. C'est non pas seulement de former des professionnels dans le champ en particulier de nous, de l'architecture, mais d'être là pour questionner toute une série de routines que la société a actuellement. Et la question qu'Apolline évoque, entre autres, sur les règlements d'urbanisme et une lourdeur et, je trouve, un anachronisme des règlements d'urbanisme, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, je trouve que c'est très bien que ce soit des écoles qui soient le lieu pour questionner tout ça.
On utilise beaucoup d'OSB, qui est un bois composite et qui est facile à travailler et qui permet d'avoir rapidement un espace fermé.
Samantha Crinel, qui était en charge du projet en 2017, qui avait déjà un réseau, qui connaissait bien ce domaine, les architectes, et qui a proposé cette idée en collaboration avec notre directrice générale, Ariane Dirix. Et donc l'idée est partie de là, c'est de se dire finalement, on n'y connaît pas grand-chose en architecture, mais on connaît telle et telle personne qui, eux, ont sans doute cette dimension sociale et seraient certainement intéressés de développer cette possibilité de finalement mettre à profit des connaissances techniques au profit d'un projet social.
Il faut savoir qu'on a des contraintes techniques également. C'est que ces structures doivent être résistantes au feu. Voilà, on a fait un choix qui est aussi raisonné par rapport à ça.
Et donc c'est sans doute du bon sens, des bonnes idées et un réseau de personnes qui avaient envie de faire quelque chose d'innovant ensemble.
La difficulté aussi pour eux, c'est ce qu'on a entendu en tout cas, c'est de quitter leur communauté qu'ils ont dans la rue et de se retrouver seuls. Ça n'a pas beaucoup de sens. Nous, on est habitués à ça. On est un peu endormis par rapport à ça. On vit chacun dans nos cellules bien fermées des autres, mais là, ils ont un vrai tissu social, une vraie relation, une vraie richesse. Et donc, il faut qu'ils puissent continuer à vivre cela aussi, dans les logements.
Pablo Loas.
On est dans des temporalités, justement, parce qu'on est dans des écoles et à l'UNIF qui ne sont pas celles du marché ou des bureaux d'études par ailleurs. Et donc, on a profité de cette spécificité pour, justement, critiquer. Je pense qu'une des vocations essentielles de l'université, c'est d'être critique par rapport à tout ce qui se fait. Et dans notre champ, l'urbanisme et l'architecture, de critiquer l'inflation de règles, parce que c'est assez dingue de considérer qu'en urbanisme, je crois que plus que dans beaucoup de matières, il y a une superposition de couches de règles, mais colossales, et que malgré une réglementation hyper, hyper dense, on ne parvient pas à développer la ville mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc il y a des paradoxes comme ça, que des étudiants en architecture et une fac d'archi doivent relever. Et donc des expérimentations comme celle-là, elles sont vraiment utiles pour discuter de ces règles d'urbanisme qui datent maintenant quand même d'il y a au moins 30 ans à Bruxelles et qui alors sont toujours faites à partir de bonnes raisons. Donc on veut lutter contre les marchands de sommeil, on veut lutter contre... Et donc on conçoit un certain type de règles parce qu'on a une sorte d'idéal de ce que doit être le logement, et c'était l'idéal il y a 30 ans, et on voit que le logement, comme toute chose aujourd'hui, évolue d'une manière inouïe. Les colocations, par exemple, c'est quelque chose qui n'avait pas de place dans l'imaginaire de ceux qui ont fait les règles d'urbanisme de Bruxelles. Et on est encore aujourd'hui à travailler avec ces règles qui datent d'une époque où, par exemple, cette colocation n'existait pas. Donc il faut absolument revoir ça. Et donc des expériences comme celle-là, elles sont vraiment... salutaire pour la société, même plus que pour nous.
Stéphanie Le Zay.
Facilitateur logement travaille avec des services envoyeurs, qui sont des acteurs à part entière du secteur du sans-abrisme.
Stéphanie Le Zay, c'est une formidable travailleuse sociale qui travaille en binôme avec Xavier Van Kerrebroek. Et donc, ils travaillent tous les deux à la cellule capteur et créateur logement, qui est un service très important à l'ESBL Lilo, et qui consiste à justement trouver des solutions de logement.
Vous retrouvez des services de rue, des centres de jour, des maisons d'accueil, logement d'urgence, donc le SAMU. Et ces gens ont l'occasion de nous envoyer des candidats qu'ils estiment être de bons candidats pour une remise en logement. Ça veut dire qu'ils ont au minimum un revenu. C'est la seule condition pour qu'on puisse accepter un candidat, et c'est une condition logique au paiement d'un loyer.
On a travaillé 2 années de suite avec nos étudiants sur le projet. Une première année pour débroussailler, avoir 2-3 projets qui nous semblaient les plus intéressants. La deuxième année, on a amélioré ces projets. Donc ils ont été plus loin. On a introduit par exemple la question des règlements urbanistiques, ce qu'on n'avait pas fait la première année. Donc on a complexifié la question, on a été plus loin. Actuellement, ces projets sont en train d'être amélioré au niveau technique pour pouvoir être construit à la limite en série, même si c'est une série de 2 ou de 3 à partir du printemps, afin qu'il soit utilisé directement au printemps. Et là, vraiment testé et habité. Et donc qu'on puisse passer de la construction au petit village que l'on pourrait imaginer et à la vie qu'il y a dans une communauté qui serait hors de la rue. S'implantera normalement aux casernes.
Chloé-Thôme.
On ne peut pas se permettre d'attendre que les personnes en rue trouvent un logement via le système traditionnel de logement social. Et donc, il faut qu'on innove, soit par des projets d'architecture comme Home for Less, mais aussi en sollicitant d'autres réseaux, en allant rencontrer les propriétaires privés qui, en fait, très souvent sont intéressés d'investir dans un bien immobilier qui va être géré par une agence immobilière sociale. Et donc, le travail de Xavier et de Stéphanie, c'est vraiment ça, c'est d'allier de nouveau deux savoirs, deux expertises. D'un côté, le travail social, avec cette connaissance du parcours de la personne qui est accompagnée, de comprendre les besoins, de comprendre les craintes, de savoir comment lui présenter les choses et de pouvoir, entre guillemets, la coacher. Et puis, de l'autre côté, on a Xavier qui a la casquette d'agent immobilier, mais avec évidemment un grand cœur et une grande conscience sociale. Mais donc, à deux, ils réussissent à combiner tout ce qu'il faut pour retrouver un logement à une personne qui va souvent ne pas être le premier candidat retenu par des propriétaires. Et donc, lui va vérifier tout l'aspect immobilier, vérifier que le logement convient bien, parce que c'est pas parce que c'est des gens qui vivent dans une précarité qu'ils n'ont pas droit à un bon logement qui répond aux normes, comme tout un chacun.
Ensuite, nous allons rencontrer le candidat. On lui explique un petit peu le fonctionnement du coaching. Quel est mon travail? Quel est celui de l'agent immobilier? Comment on va fonctionner ensemble? Et puis, une à deux fois par semaine, pendant une heure et demie, le candidat est en coaching, recherche de logement avec l'agent immobilier.
Moi, je dirais de l'habitat transitoire, en fait, plus que précaire.
Victor Lévy.
Cette notion de transit, elle est importante. Précaire, ça voudrait dire qu'on peut le démolir facilement, c'est quelque chose qui est... Là, c'est différent. C'est transitoire à la fois au niveau de la vie et à la fois au niveau de l'espace.
Lors de rencontres avec les étudiants, en fait, une solution, et en tout cas une piste qui s'est très vite démarquée par rapport aux autres, c'était justement d'écarter ces formes un petit peu plus alternatives. En fait, je crois que quand on a perdu sa maison, on rentre dans une espèce d'idéalisation de l'archétype même du chez-soi. On veut une porte, on veut un seuil, on veut vraiment passer ce cap de la rue chez moi. Et peut-être que les yourtes et toutes ces formes d'habiter troublent ces frontières. Elles peuvent vite mettre mal à l'aise des personnes qui ont plus que connu ce trouble-là.
Denis Delpire.
Ce qui est marrant, c'est qu'on travaille cette année-ci avec les étudiants sur des micro-logements, sur de l'habitat léger. Tiny house, yurt, un zoom, roulotte. Ce qu'on a fait l'année passée est très proche de ça. C'est les mêmes surfaces, c'est les mêmes fonctions. C'est habité aujourd'hui un peu différemment, mais sur des surfaces réduites. Et j'ai l'impression qu'on sort de la maison traditionnelle avec le garage, avec les 150 mètres carrés, accolé, pas accolé, sur un terrain fixé, et que tout s'ouvre aujourd'hui. Et il n'y a pas seulement les personnes qui n'ont pas de domicile fixe qui désirent avoir une autre manière de vivre. Il y a des gens qui désirent vraiment réduire la matière qu'il y a autour d'eux. Il y a des gens qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent être autonomes, indépendants des banques. C'est tout un système qui est en train de changer. Moi, je pense que c'est une réponse, comme une autre, à la question de l'habitat.
C'est intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, les personnes qu'on va définir comme des personnes sans-abri recouvrent effectivement une gradation très très large. Donc ça va des personnes vraiment dans une situation très précaire face au logement, qui vont enchaîner des baux à courte durée, qui sont dans des logements insalubres, jusqu'aux personnes qui sont depuis 15, 20 ans dans la rue et qui n'ont presque que connu ce modèle-là. Donc il y a vraiment tout un type de personnes et des accompagnements qui s'adaptent évidemment à chaque profil.
Je discutais avec une personne qui fait sa thèse de doctorat sur l'habitat léger, qui disait que l'habitat léger, il y a énormément d'habitat léger en Wallonie, alors qu'on ne le sait pas, et c'est illégal, mais comme Notre-Dame-de-Lande est illégal. Elle faisait le parallèle avec les gilets jaunes. Je disais, ah ouais ? Oui, les gens prennent leur devenir en main, ils prennent leur responsabilité en main, ils ne se reposent plus sur le parti politique, sur le syndicat, ils y vont. Ils mettent un gilet jaune, ils vont dans la rue, ils construisent leur tiny house, et ils montent leur yurte, et ils la déménagent quand ils ont des ennuis pour un endroit plus discret. En fait, c'est un changement, je pense, qui se passe à plein de niveaux de la société. Un autre monde.
Comment trouver ce mode transitoire à la fois de nouvelles relations sociales et de reconstruction de la personne? On ne s'attendait pas du tout à ça, en tout cas.
Home for Less. Avec, à la faculté d'architecture La Cambre Victor Horta, Denis Delpire, Victor Lévy, Apolline Vranken et Pablo Loas. Et à l'ILO SBL, Stéphanie Lozet et Chloé Thaume. Home for Less, par Thierry Genico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.